Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivere, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanc et Michel Arbat, c'est consacré à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanque et Philippe Goudard.
Et Jean-Claude César.
Et ça se passe tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois.
M'engendra. Maître savonnier qui déjà sur le grand océan fauche les blés odorants. Borcha poché m'a enfanté, que féroces ont dévoré aux entrailles et au ventre les brosses aux mille pattes lavantes. J'étais amoureux de Luca, Luca ne l'était pas de moi. Mes meubles, des ombres. Mes amis, zéro leur nombre. Je ne peux plus avoir d'ennui. Mon âme les a tous absorbés et à tout jamais je vis à l'abandon, hébété.
Bonsoir. Bonsoir, nous sommes à la salle de répétition du théâtre de la Vignette dans le campus de la fac Paul Valéry pour une émission un peu spéciale puisque c'est une émission que j'ai préparée avec les élèves de l'unité d'études d'art du spectacle des étudiants de théâtre de deuxième année. Hein. Donc c'est une bonne vingtaine d'étudiants qui ont participé à la préparation de cette émission et qui vont la mener avec moi. Nous sommes devant un large public auquel d'ailleurs je vais demander d'applaudir là, pour vous manifester un petit peu. Merci. Voilà. Et donc, on a choisi de parler d'Attila Joseph, puisque le premier poème que vous venez d'entendre, hein, c'est un de ces poèmes de jeunesse dans lequel il parle de ses parents. Qui est Attila Joseph? Je vais le dire en deux mots, mais on va passer 2 heures à vous parler de lui. C'est, certains le considèrent comme le Rimbaud hongrois. C'est un poète qui est né en 1905 et mort en 1937. Donc, vous voyez, une vie très brève qui est au début du siècle et on va suivre le parcours de sa vie en même temps que dire des textes de lui. Et c'est Andréane, Julien et Anna qui vont nous parler tout d'abord de son enfance.
Oui, donc Attila Joseph est un poète qui mérite en effet qu'on s'y intéresse. Il a une vie très mouvementée, une enfance difficile, des dépressions à répétition qui l'entraînent à faire plusieurs tentatives de suicide et l'amènent à mourir assez jeune. Ses œuvres ont choqué, bouleversé, provoqué les intellectuels et les artistes de son époque. Aujourd'hui, il est reconnu par ses pairs et son pays. D'autres poètes l'ont traduit et ont été inspirés par ses poèmes.
Je voudrais juste vous interrompre pour dire une petite chose. Le choix de ce poète, hein, c'est aussi que moi, je ne le connaissais pas plus que vous. Et on l'a découvert il y a peu de temps. En 2005, l'UNESCO a décrété l'année Attila Joseph.
Oui, c'est ça.
Il a été très peu traduit en français, quoique déjà dans les années 50, Éluard Guillevic l'avait traduit. Et il y a un seul gros bouquin qui malheureusement est épuisé. Vous voyez le sort de la poésie sur le plan international, c'est pas fantastique. Il est très connu en Hongrie, mais pas chez nous. Voilà, c'est un bouquin qui est chez Phébus. Si vous avez la chance de le trouver, vous aurez toute l'œuvre qui s'appelle Aimez-moi. Excusez-moi, Anna, je vous ai interrompu.
Oui. Sans problème. En fait, Attila Joseph, son arrivée au monde, en fait, concorde avec l'entrée au XXe siècle de l'Empire austro-hongrois. C'est un moment où le pays a plus de 7 millions d'habitants dans la pauvreté.
C'est donc dans ce contexte défavorisé qu'Attila Joseph naît, donc le 11 avril 1905, dans le 9e arrondissement.
Il est élevé dans une famille de 3 enfants. Attila Joseph a 2 sœurs, une qui se prénomme Etelka et la deuxième, Yolan. Il est abandonné, la famille est abandonnée par le père Aaron Joseph, qui est un ouvrier de l'industrie savonnière dès 1908. Il dit à la famille partir en Amérique, mais se retrouve finalement en Europe sans laisser aucune trace.
En fait, il retourne dans son pays, je crois. Il retourne en Moldavie, tout simplement. Vous avez dit dans le 9e arrondissement, c'est à Budapest. Hein.
Oui.
Comment s'appelle d'ailleurs ce Ferencváros, je crois. C'est un quartier très pauvre.
Hein. Oui, c'est ça. Puis avec le départ du père, les conditions sont assez dégradantes pour la famille, ce qui pousse la mère à séparer les enfants dans différentes familles adoptives. Donc, Attila et sa sœur sont placés et confiés à des parents qui résident dans le village de Oshod.
En effet, oui, mais cette situation du poète ne va pas s'améliorer, elle s'aggrave au contraire. À 5 ans, il est garçon porché. Et son père adoptif le rebaptise du nom d'Étienne. Donc, ça montre bien déjà une situation assez délicate. Le père adoptif également porte peu d'attention sur les enfants. La mère, d'ailleurs, suite à une visite dans la famille, se rend compte que son enfant est plein de kymose.
Oui, une petite anecdote que je voudrais dire là par rapport au fait qu'il est débaptisé. Il est débaptisé, il s'appelle Attila, ce qui est un prénom un peu courant. Il est débaptisé en Étienne. Alors lui, il est d'une famille orthodoxe et Étienne, c'est un prénom plutôt catholique. Enfin, en Hongrie, c'est considéré comme le patron. Et il dit cette petite phrase, après en avoir discuté avec les voisins, il parle des paysans qu'il avait pris chez eux, ils avaient conclu que le prénom d'Attila n'existait pas. Cela m'avait stupéfié et j'avais l'impression que l'on mettait en doute mon existence. C'était un choc pour ce petit gamin qu'on le débaptise aussi.
Oui, en effet, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, ça démontre tout à fait que dès le début, en fait, sa vie est marquée de tourments et c'est que déjà là, des prémices à une vie assez tourmentée, justement, là, où il va être hanté par cette enfance difficile.
Alors, vous vouliez nous parler peut-être un peu de la Hongrie de l'époque? Non, vous nous avez déjà dit que c'est un pays féodal très pauvre.
Oui, en fait, mais c'est ce qu'on peut aussi ajouter, en fait, que c'est non seulement beaucoup de paysans très pauvres, mais c'est aussi très peu de propriétaires. Et en fait, justement, on sort d'un grand conflit entre l'Autriche et l'Hongrie qui a mené justement l'Empire austro-hongrois, comme on l'a connu, et qui va finalement se diviser lors de la Première Guerre mondiale.
OK, on va peut-être laisser la parole à Attila Joseph et entendre le premier poème qu'il a écrit à 11 ans, je crois.
Cher Joko, que je voudrais avoir de quoi pour manger une fois de l'oie. Aller vêtu avec grand soin. M'offrir des flancs pour 5 florins. Et tout en savourant mes flancs, j'irai montrant mes beaux habits, clamant partout devant les gens, Attila mène bonne vie. Rien que d'y penser me fait peur. Ah, bonheur de brève durée, ne pouvant toucher ses splendeurs, point ne suis heureux pour de vrai.
Ma mère t'a offert sa mamelle. J'étais fort comme le lait maternel, et parmi tes lèvres, j'ai puisé en pleurant son sein relâché par ta jolie dent. Ma jumelle, hélas que ne l'es-tu pas ? L'hiver, nous trouverions quelque chaude cachette. Un varech doré couvrirait ta tête dans mon petit baquet barbotante avec moi. J'ai vu, à travers le linge étendu, bouche grande ouverte, dormir fièrement, bercé d'un rythme, 2 enfants, et marcher sans bruit nos voisins bourrus. Comme en moi, le temps prend de l'âge, un scarabée tombé sur le dos me bouscule, mes pieds et mes mains follement gesticulent, tels 1000 rosiers dans l'orage.
Cette chaise l'a poussé plus loin, s'accroupir au devant d'un train. Prudent, escalader un mont, secouer mon sac dans le vallon, à mon vieux faucheux donner une abeille, faire des câlins à une vieille, manger un merveilleux ragoût, marcher sur des œufs dans la boue, poser sur les rails mon chapeau, tourner autour d'un marigot, s'asseoir sur son cul en costume, rougir dans les bruyantes écumes, parmi les tournesols fleurir, ou ne pousser qu'un beau soupir, une mouche enfin y conduire. Brosser mon livre poussiéreux, cracher sur mon miroir, au milieu, m'entendre avec mes adversaires, les tuer tous, couteau grand ouvert, observer le sang s'écouler, voir la fillette s'en détourner, ou m'asseoir, tranquille et modeste, mettre le feu à Budapest, avec des miettes, attirer l'oiseau, jeter mon pain dur sur le carreau, à ma chérie tirer des pleurs, dans mes bras prendre sa petite sœur, et si le monde est le compte que j'en fais, le laisser là, qu'on ne le revoie jamais. Ô toi par qui tout ce nous se délie, ce poème à présent s'écrit, toi par qui on sanglote ou rit, ma vie, ô toi par qui on choisit.
Lorsque les enfants jouent au pire, Dieu parmi eux rôde et tournille. Si l'un d'eux ouvre l'œil bien grand, Dieu envoie sa bille dans le trou pile dedans. Il ne pense jamais à lui. Mais le monde est son seul souci. Aux filles, il donne leur éclat. D'un vin frais, il met du rouge à leur minois. Il veille au lustre des souliers et dans la rue vous laisse passer. Avec lui, ni mêlée ni conflit. Quand nous dormons, il se met calmement au lit. Peut-être en pensée, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai pris un grand cabas, jeté à terre pour m'y jucher, mon corps aussi l'a contemplé. Désormais, je le connais et le surprends, flagrant délit de chaque instant. Je sais pourquoi il m'aime aussi. Dans mon cœur, je l'ai pris un flagrant délit.
Nous retrouvons donc Attila Joseph, poète hongrois, à l'âge de 7 ans.
Voilà, donc comme on en a parlé avant, Attila retourne dans sa famille, donc chez sa mère à Budapest, qui s'était aperçue qu'il était maltraité dans sa famille d'accueil. Elle avait remarqué plusieurs ecchymoses et un état plutôt...
Il était en loque.
Voilà, complètement. Donc elle décide de reprendre ses enfants, donc Attila et sa sœur. Sa mère avait trouvé un travail de blanchisseuse. Donc c'est pour ça aussi qu'elle décide de reprendre avec elle ses enfants.
Alors c'est une mère qui vit, enfin, elle est placée chez des gens, en fait, elle est domestique chez des gens. Mmh. Hein, et donc il passe son temps à suivre cette mère. Il faut dire quand même qu'il n'a pas de père. Donc cette mère, elle l'aime beaucoup, certainement. Elle, oui. Elle l'affectionne beaucoup, elle le protège. Je voulais lire un tout petit extrait où il parle de sa mère. Enfin, il en parle beaucoup dans l'état texte, mais à propos de la blanchisseuse. « J'étais tout d'une pièce en ce temps-là. Je hurlais, trépignais, pour qu'en ses bras, dans le grenier, ce fût moi qu'elle emmène. Ce linge gonflé, que d'autres le prennent. mais montant son linge, sans me gronder, sans me regarder, elle l'étendait et je voyais l'éclatante lessive tourbillonner comme autant d'ailes vives. Voilà. Mmh. Hein. Et il parle plusieurs fois, il dit aussi comment le repassage, enfin le travail du linge, use complètement sa mère, quoi, parce qu'elle doit, elle doit trimer, hein, doit bien y penser. Quoi.
Oui, oui, en effet. D'ailleurs, même dans la famille et l'époque, il fait que c'est très difficile pour Attila.
Oui. Et à l'âge de 9 ans, là, il fait sa première tentative de suicide et c'est l'année où la Première Guerre mondiale éclate.
Oui, et pourquoi cette tentative de suicide? Tout simplement parce qu'il veut attirer l'attention de sa mère. Tout à l'heure, je pense que Noémie nous lira un petit extrait, hein, de, autobiographique où il raconte cette tentative juste pour attirer l'attention parce qu'il est, hein, comme dit le titre, « Aimez-moi », il va passer sa vie à dire ça. Quoi.
D'ailleurs, en parlant de « Aimez-moi », pour montrer à quel point sa vie est difficile, nous avons un extrait du curriculum vitae. Notre sort empirait sans cesse. Je faisais la queue dans les magasins. Parfois, je prenais mon tour à l'épicerie dès 9h du soir. Et à 7h30 du matin, quand mon tour arrivait, on me riait au nez en me disant qu'il n'y avait plus de Saint-Doux.
Ouais, c'est vraiment un constat, une anecdote qui montre la vie dure d'Attila.
Vous pourriez dire aussi que ce petit curriculum vitae, il est tiré d'un, c'est un vrai curriculum vitae qu'il a envoyé pour se faire embaucher dans une banque. Donc ça dénote bien le personnage, c'est-à-dire qu'il raconte toute sa vie. Hein, il raconte dans tous les textes, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune limite, si vous voulez. Et il est comme ça, on verra à travers d'autres anecdotes. Hein. Excusez-moi.
Aussi, il faut dire que Attila aime beaucoup la littérature. Il y suit des cours de complémentaires, primaires.
D'ailleurs, il lit beaucoup Jules Verne.
Jules Verne, mais tout autre chose aussi, puisque sa sœur.
Sa sœur lit des romans feuilletons. Voilà. Il lit ça aussi. Ouais.
Ouais, ouais. Il lit tout ce qui lui vient sous la main.
Tout ce qui tombe sous la main, exact.
Et donc, c'est à 11 ans qu'il écrit son premier poème, qu'on a pu entendre juste avant. Puisque la littérature, c'est vrai, l'a toujours aidé à s'en sortir.
Oui, puis un autre petite chose importante, c'est qu'il découvre la légende d'Attila aussi. Oui. Hein, puisqu'elle a été débaptisée par ses paysans. Et tout d'un coup, il se rend compte de qui est Attila, ce personnage haut en couleur. Et c'est une espèce de, presque une renaissance pour lui quand il lit ses textes. Quoi. Tout d'un coup, il voit qui il pourrait être.
Exactement.
Quand il a 12 ans, sa mère est atteinte d'un cancer de l'utérus. Donc il est replacé en famille d'accueil, mais il fugue, car il ne supporte pas d'être enfermé. Et
une petite anecdote encore de son curriculum vitae, justement.
À cette époque, ma mère était déjà malade. Elle avait un fibrome et je me présentais moi-même à l'assistance publique. C'est ainsi que je partis pour un court séjour à Monor.
C'était un garçon quand même, même si sa situation était très compliquée, qui était très
autonome.
C'est un débrouillard.
Voilà. Un débrouillard, hein, ouais.
Il pique, il dit qu'il va aller voler du charbon, enfin qu'il va à l'école les jours où il ne faut pas aller piquer du charbon ou aller kidnapper un morceau de jambon quelque part pour faire vivre la famille.
Hein. Oui. Okay. Donc sa mère, on l'a dit, est tombée gravement malade et donc il est placé dans une famille, mais il en fugue pour aller retrouver sa mère dans son village. Malheureusement, elle meurt entre-temps.
En fait, je crois qu'il revient, de fugue. Et puis, au moment où il s'aperçoit qu'elle va mourir, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il y a ce truc incroyable.
Il part chercher des provisions, mais il n'a pas le temps de revenir.
Dans le village natal de sa mère. Voilà. Et quand il revient, elle est déjà morte. Voilà. Ça, c'est un grand drame de sa vie, d'ailleurs, qu'il ne se remettra jamais.
Il ne pourra pas lui dire au revoir.
D'accord. On va peut-être... oui, pardon.
À la fin de la Première Guerre mondiale, la Hongrie est... plongé dans la misère et est amputé de 2/3 de son territoire.
Oui. Bon, on va en rester sur cette note-là. On va se mettre un peu de musique pour, digérer la chose.
Yeah!
allez nous lire ce court extrait de Curriculum Vitae qui parle de cette première tentative de suicide d'Attila Joseph quand
c'est
il a 11 ans, je crois.
C'est
9 ans. 9 ans.
C'est pas Curriculum Vitae, c'est suicide.
C'est suicide. Ça dit bien ce que ça veut dire.
J'étais couché sur le dos, la tête dirigée vers la porte de la cuisine, les pieds vers la porte de la chambre, follement désireux de voir quelqu'un entrer. Ayant d'ailleurs compris qu'on pouvait entrer sans me remarquer, je me traînais jusqu'à la porte de la chambre, que je finis par toucher du pied. Alors, légèrement soulagé de ma colère, mais toujours avec une infinie tristesse, je continuais mon manège. Etus finit par s'apercevoir que je faisais du bruit près de la porte, car elle me dit « T'as pas fini, non ?» Mais au bout de quelques instants, après s'être écriée « Es-tu devenu fou, Attila ?» elle perdit patience et entra dans la cuisine. Apercevant alors dans la pénombre mon visage gonflé de pleurs, mais très altéré par la tristesse et le désespoir, elle poussa un cri de terreur. Ce qui eut pour effet de décupler mon propre effroi. Je me mis donc à pleurer de plus belle, tout en bredouillant. « Mon Dieu, Etus, je vais mourir, j'ai bu de la soude caustique. » J'avais oublié que j'avais bu de l'amidon. Etus alla chercher la concierge qui me coucha dans le lit. La petite pièce ne tarda pas à se remplir de petites vieilles qui geignaient. J'avais peur, mais j'étais fière. À la fin, les vieilles ne s'occupaient plus du tout de moi et se lamentaient au sujet du prix des pommes de terre. Mais je ne m'en sentais nullement offensée. Etus prévint maman, laquelle, quittant son travail, rentra précipitamment et, repoussant tout le monde, se pencha sur mon lit. Ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient en pleurs. Puis, me prenant dans ses bras, j'avais 9 ans, elle se mit à me caresser et me porta à la cuisine. Là, tout bas, presque en chuchotant, elle me demanda « Montre-moi, mon petit, ce que tu as bu. » J'étais si heureux d'être dans les bras de maman que j'en oubliais toute ma rancœur. Je me blottis contre elle et me remis à pleurer, car je songeais que pour être complètement heureux, il aurait fallu que maman me prenne dans ses bras et me caresse sans que j'eusse fait ce que j'avais fait. Puis, je montrai l'amidon et dis « Ça ?» Maman poussa un soupir de soulagement et je me sentis moi-même soulagée de mon fardeau intérieur. Je ne pensais plus à rien, je ne voyais plus que maman me ramenant dans la chambre, me recouchant, me recouvrant. Elle y resta un peu, me dit quelques mots à voix basse. Je ne me souviens plus quoi, mais c'était très beau. Puis elle retourna à la cuisine, envoya Etus chercher de la tisane pour moi, alluma le fourneau, remplit d'eau une marmite, la posa sur le feu. J'entends encore le bruit que cela faisait. Et je m'endormis.
Pas sur le bien et le mal, je souffre seulement et seulement travaille. Je fais en céramique un esquif mal bâti, mauvais pour mon chagrin, bon pour mon apathie. Mes œuvres sont sans fin, mes œuvres sont sans nombre. Mon aimée le sait bien car elle en tient le compte. Mon aimée tient ce compte parce qu'elle a la foi. Quand je le demande, elle me regarde sans dire en quoi. Si j'étais arbre, Le corbeau même, en vérité, ne nicherait sur moi que par nécessité. Si j'étais terre qu'un vieux manant laboure, il ne me viendrait plus que des topinambours. Et je n'aurais de pommes de terre que si le travail le requiert. Si j'étais eau, je ne serais plus qu'un marais. Si j'étais feu, c'est la cendre que je serais. Et si en place du Seigneur, j'étais le Seigneur, c'est moi que l'on chérirait de tout cœur.
Je serai jardinier. Des arbres à cultiver, au lever du soleil, moi aussi me lever, n'avoir rien pour m'inquiéter, sinon la fleur que j'ai plantée. Chacune des fleurs que j'ai plantées, au rang des fleurs, sera ma préférée. Même l'ortie, à la bonne heure, tant elle sera vraie, ma fleur. Pipe à la bouche, buveur de lait, à bonne renommée, je veillerai de près. Le danger ne m'atteint plus guère. Je me suis mis moi-même en terre. Il le faut, vraiment, oui vraiment, et au levant et au couchant, quand le monde sera décombre, qu'il y ait une fleur sur sa tombe.
Depuis 7 jours, je trempe ma plume au poème et dans le ciel bleu pur, moi-même. Je sonne des tocsins, c'est dur ma pauvre tête sur le mur qui cherche une route perdue. La voix sur ma langue pendue. Sachez qu'il n'y a rien en vain, puisque l'on trouve encore du vin, sans que la source en soit séchée, au creux de ma veine arrachée. Que le rat dans l'égout natal veut aussi devenir cristal, et que le tronçon se dégoûte du tronçon. Que toi qui m'écoutes, tu te trouves pur en autrui. Que dans toute marche de nuit, il est un calme qui circule, qu'à nos souffles, les maisons brûlent. Que les ponts s'écrasent, enfin rompus sur les pauvres humains. Que se dévore notre engeance, qu'on arrose d'eau d'indulgence. Ô mes amis, voilà 7 jours, 7 jours que je n'ai pas mangé. Vous écoutez Radio Clapas et nous sommes à la fac Paul Valéry pour vous parler, dans le cadre de l'émission de la BIP, de Attila Joseph, poète hongrois. À vous, Antoine Esgui et Mohamed, de nous parler un petit peu de là où on a laissé...
Après la mort de sa mère, a-t-il fui cette situation en s'engageant dès 1920 comme mousse à bord d'un remorqueur sur le Danube. Quelques mois plus tard, Yolande convainc son mari d'aider Attila à terminer ses études. On l'envoie en province au séminaire des frères salésiens. Ces derniers refusent d'accueillir ce novice dont la vocation leur semble douteuse et qui de plus appartient à la religion orthodoxe.
Excusez-moi, juste pour dire que le mari de Yolande, de sa sœur, donc, est avocat et qui va. Bon, il n'est pas très fier d'avoir. Enfin, il cache même l'origine populaire de sa femme. Hein, il l'a fait passer pour, je crois, une fille de princesse ou quelque chose comme ça. Mais il va quand même aider toute sa vie Attila Joseph.
Oui.
Excusez-moi.
C'est clair, c'est comme ça. Il sent, appartenir à la religion orthodoxe par cet accompagnement. Il s'en retourne à Budapest, où son beau-frère l'envoie au début de l'automne dans un internat au lycée de Makó, petite ville du sud de la Hongrie. Voilà.
Et alors, on est en 1921, et Anton MacKay, donc son beau-frère, qui décide de l'aider et de le renvoyer poursuivre ses études. À Makó, donc dans ce lycée-là. Attila Joseph a alors 16 ans. Oui. Et ce jeune poète va déjà faire des éclats avec sa poésie, puisque dans le lycée où il est, il va faire scandale en tombant amoureux de la fille du proviseur. Et il va faire savoir cet amour qu'il va proclamer dans un poème qui paraît dans un journal local, en fait.
C'est surtout ça, le scandale, parce que tomber amoureux, à la rigueur...
Oui, c'est un coup double, c'est un coup double. Et du coup, ses professeurs décident de lui interdire de publier ses vers sans autorisation, ce qui est pour lui une grande déception. Et donc, il subit à la fois une déception sentimentale et une déception personnelle de poète. Et ça en est trop pour lui, en fait. Et pour la deuxième fois, il décide d'attenter à sa vie et d'essayer de se suicider. Il avale une soixantaine de cachets d'aspirine. La vie en décidera autrement. Il échoue dans sa tentative de suicide et il se retrouve chassé de ce lycée. Et il est donc une fois de plus rejeté dans la vie.
Mais il y a peut-être un petit mais quand même, c'est qu'il a à l'époque un professeur qui a subodoré que c'est un grand poète qui est en train de naître, hein, je crois. Hein, il s'appelle Tetamanti, je crois, Bella Tetamanti, hein, et qui l'encourage dans le fait d'écrire. Ou alors j'ai peut-être sauté une étape, non ? Je vois dubitatif là, Antoine.
Si, il a un professeur qui le soutient, et plus que ça, puisque à la suite donc de sa sortie de ce lycée, un ami avocat qui aime beaucoup les belles lettres décide en fait de le nourrir, de le loger et de l'encourager à écrire.
D'accord.
Oui. Et c'est pas le seul signe d'encouragement qu'il a, puisque Julia Chouache, un grand poète hongrois, va venir aussi le féliciter parce qu'il trouve que Attila a beaucoup de talent et il va l'aider pour la publication de ses poèmes. Et c'est à 17 ans alors qu'il publie ses premiers poèmes dans la revue Newgat. Et il fait alors étendard du modernisme hongrois par ses poèmes. Et Julia Jouache va même aller plus loin, puisqu'il va aller jusqu'à l'aider à publier son premier recueil en décembre 1922, le recueil qui s'appelle Le mendiant de la beauté. Il va préfacer ce recueil en tenant ses propos, je cite, « La jeunesse de ce poète est chargée de grandes promesses. Si ces promesses sont tenues, ce qui ne dépend pas seulement et pas toujours du poète lui-même, celui-là s'élèvera au rang des meilleurs et des plus authentiques représentants de la poésie hongroise de l'avenir. » Ce qui témoigne de la croyance de Julia envers Attila. Donc, après la critique vis-à-vis de son recueil est très bonne, puisqu'il fait figure d'enfant prodige. Et
d'ailleurs, à ce sujet, il est non seulement très bon poète, mais aussi très bon autodidacte, puisque à la suite de la publication de ces poèmes-là, au cours de l'année 1923, il arrive en 3 mois à absorber le programme de 2 ans d'études et à passer le baccalauréat qu'il obtient, ce qui constitue une sorte de petit miracle.
Il le passe en auditeur libre. Hein.
Oui.
Et je crois qu'il échoue juste sur la deuxième partie, mais quand même, ouais. En 3 mois, il a rattrapé 2 années d'études. Quoi.
Exactement.
Hein. Il a une mémoire phénoménale, c'est ce que disent tous les gens aussi qui l'ont côtoyé. Hein, et il absorbe énormément de choses, parce qu'il faut dire qu'il a un parcours très pauvre. Hein. Il a fait que la communale et puis ce début de lycée, et il a tout ingéré entre-temps. Bon.
Ce qui ne l'empêche pas de tenter pour la 3e fois de se suicider au cours du mois de mai 1923. Il se couche sur les rails d'une voie de chemin de fer et attend le train. Et par chance, en fait, le train qui s'approchait a... malheureusement et heureusement...
déjà fait son œuvre.
Voilà.
Quelques kilomètres
en amont. Et écrasé une autre personne qui a tenté de se suicider. On peut dire que c'est incroyable.
Ça ne peut pas ne pas se remarquer. Mais en même temps, c'est bon. Peut-être. Alors, on verra que le suicide, les trains aussi, sont constamment présents dans l'œuvre d'Attila Joseph. Il y a cette obsession de l'homme couché sur les rails. Il y a au moins 5 ou 6 poèmes qui parlent de ça. Hein, il y a cette espèce de proximité du train qui est comme un monstre un petit peu. Et en même temps, il essaye plein de fois de se suicider et il se rate. Il ne se ratera pas toujours, hélas, mais il se rate très souvent. Quoi. On peut dire peut-être, juste pour finir ce micro, à moins que je vous coupe l'herbe sous le pied, que ces événements ils sont contemporains aussi de l'écrasement de la commune hongroise, hein, c'est-à-dire qu'une très très importante révolte hongroise qu'on peut comparer à la Commune de Paris, hein, qui est dirigée par Béla Kun, est écrasée dans le sang dans ces années-là.
Dès 1920, on a le début de la dictature de Horthy qui durera jusqu'à la guerre.
Voilà. On va écouter maintenant justement un texte en hongrois d'Attila Joseph.
József Attila, mióta elmentél? Mióta elmentél, itt hűvösebb a sajtár, a tej, a balta nyele. Puffanva hull a hasított fa le, s termet fehéren, ahogy leesett. A tompa földön öltözik a szél, kapkod, s kezei megállnak. Lejti kebléről az ágakat, dühötten hull a törékeny levél. Ó, azt hittem már lágy völgyben vagyok, két melled óv meg észak s dél felől, a hajnal nyílik hajam fürtyiből, s talpamon az alkonyat ragyog. Soványan ülök, nézem, hogy virítsz, világkúró virágja, messziség. Kék szirmaidban elhamvad az ég, a nagy szürkület lassan elborít.
Vous êtes bien sur Radio Clapas et non pas sur Radio Budapest comme vous auriez pu le croire. Et on était en train d'écouter en hongrois donc un texte d'Attila Joseph, cette espèce de Rimbaud hongrois auquel on est en train de rendre hommage ici avec les étudiants de deuxième année de la fac de Paul Valéry à Montpellier. Et comme vous avez, enfin, aucun de nous ne parle hongrois, mais tous ceux qui nous en ont parlé nous disent que c'est une langue extrêmement chantante et qu'en plus Attila Joseph qui s'est nourri beaucoup de folklore, qui a été prendre un petit peu partout, qui est une espèce de buvard de son époque, à la fois du côté populaire et du côté savant. Enfin, il fréquente beaucoup les poètes de l'époque. Alors, on s'est trouvé, nous, devant des traductions qui sont tellement différentes des fois qu'on était troublés. Hein, et je pense qu'il y a certainement encore à traduire d'une autre manière parce qu'on est tombé sur des traductions qui étaient très, très respectueuses de la prosodie, qui essayaient absolument de restituer les vers, les rimes. Et ça n'est pas forcément la musique hongroise. Donc, on a voulu vous donner un exemple d'un même texte dans 2 traductions qui sont complètement différentes et que Maïté et Mathilde vont vous traduire quasiment phrase par phrase, chacune à sa manière.
Depuis ton départ.
Depuis que tu es parti.
Depuis ton départ, tout est plus frais ici.
C'est depuis que tu es parti que sont plus froids.
Le baquet, le lait, le manche de la cognée.
Ici le seau, le lait. Le manche de la hache.
Le bois fendu s'écroule à grand bruit.
Et que le bois fendu s'affaisse et se détache.
Durci et blanchi, aussitôt tombé.
Vois-le tomber, livide et tout roide à la fois.
Sur la terre sourde, le vent s'attif.
Sur le sol sourd, le vent dans ses habits s'engage.
Il tâtonne, attarde ses mains.
Il recherche sa proie, s'arrête, fouille et tranche.
Laisse ballante les branches sur son sein.
Et de son tourbillon précipite les branches.
Puis, furieusement, tombe un feuillage chétif.
Frêle, la feuille alors bronche et tombe avec rage.
Ô moi qui croyais vivre en un tendre vallon.
Moi, dans un doux vallon, déjà je me croyais.
Que ta gorge me veillait au sud et au nord.
L'aube neuve épousait mes cheveux qui ondulent.
Que mes boucles déployaient l'aurore.
La plante de mes pieds brillait au crépuscule.
Que sur mes pas brillait le soir et ses rayons.
Et du nord et du sud, tes seins me protégeaient.
Je suis assis, malingre. Je te regarde qui t'ouvre.
Je suis assis, chétif, toi t'épanouissant.
Monde, fleur d'ivraie, distance.
Monde lointain, fleur de chien-dent, je te regarde.
Et tes pétales bleus, le ciel se fait cendre.
Dans ton cœur bleu, un ciel de cendre se hasarde.
Et le grand crépuscule peu à peu me recouvre.
Moi, langé par le soir qui tombe immensément.
Le voyageur lointain parle de grandes villes. Là-bas, les gens ne se connaissent pas. Les soldats ne portent pas de fusils, mais sur les grandes places sonnent leurs fanfares. On se rassemble en nombre. Les enfants se penchent pour écouter. Ils écoutent, puis à la maison racontent comme c'était beau. Et l'on s'en félicite. Les filles là-bas se moquent des garçons. Mais les aime tout de même. On s'aime aussi sous un jour lumineux. Il y a de grands ponts sur lesquels on peut s'arrêter. Regarder l'eau et les bateaux. On ajoute ça et là, les passagers bruyamment s'esclaffent, puis d'un seul coup se taisent. Observe comme l'eau immense, avec sérieux fuit sous les vagues. Elle scintille comme des larmes. Pouvoir lire les livres merveilleux, si grande est la clarté, alors même que la nuit est déjà toute tombée.
Chant des jeunes femmes. Nos mentons duveteux et pleins d'espièglerie, et nos têtes jolies, jambes et pieds lestes et fins tout à la fois, nos lèvres et nos yeux, nos dos blancs et bien droits. De plus en plus, tandis que le feu danse, luise, s'affine sous nos doigts, sous leur cadence, une brioche torsadée, et deux, et trois, et chaque jour évolue vers le rose. Voici le vent qui tourne autour de nous, farceur. Sur nos tendres seins prêts à éclore, il se pose. Il les tripote et répand notre odeur, légère comme un rêve. Gagne nos jupes, les fait flotter, les soulève. De nos légers cheveux, nous faisons un chignon. Et c'est un bel ouvrage. Nous faisons le ménage, nous jouons du torchon. Notre démarche ondule et nous levons la tête comme un coq avançant qui dresserait sa crête. Et notre svelte taille et son balancement et l'ondulation de nos croupes si belles et de nos souples bras évoquent des bambins, ou plutôt tout joufflus, tout joyeux, des gamins en train de se rouler dans les herbes nouvelles, dans des bains de rosée à l'exquise fraîcheur. Quand nos maris, le soir, s'en viennent du labeur, l'eau chaude est prête, et le souper, et le tendre baiser. Et nous les taquinons, et nous leur faisons fête, dissipant leurs soucis, sachant les amuser. C'est ainsi que nous sommes. Toute la nuit, nous étreignons nos hommes. Puis, à l'aube, nous regardons nos ventres s'arrondir, nos petits ventres ronds.
J'étais un éléphant, pauvre animal placide, qui allait
s'abreuvant d'eau fraîche sélucide. De ma trompe dressée sur une dune, je caressais le soleil et la lune. Je leur offrais des arbres à manger, des capricornes verts, des silex, des serpents. Mon âme à présent est humaine, mon paradis condamné. De mes oreilles énormes, je me donne du vent.
Tendu sur le rail, un homme ivre repose. Son poing gauche est crispé sur la gourde qu'il tient. Il ronfle et dort, baigné dans le petit matin. La nuit sur le chemin fuit et se décompose. L'humble brise nocturne apparaît tendrement, ses cheveux dispersés de cendres et d'herbes grêles. La rosée irisée l'éclabousse de ciel. Il gît. Son torse seul palpite. Par moment. Son bras droit est pareil à la traverse dure. Il est comme blotti sur le sein maternel. Ce jeune gars est vêtu de pauvres déchirures. On pressent le soleil dans le cadre du ciel. Un homme ivre repose et le rail, tout à coup, d'un tremblement qui gronde et grandit, le secoue.
Voilà, ce texte était un texte d'Attila Joseph que dont nous parlons aujourd'hui dans l'émission de la BIP. Je vais demander à Florian et à Mathilde et à Camille, qu'on vient d'entendre d'ailleurs, de nous parler un petit peu de la suite de la vie d'Attila Joseph. Qu'est-ce qui se passe donc là? On est en 1924 à peu près.
Oui. Oui, nous sommes en 1924 et plus précisément en janvier, où Attila est accusé de blasphème pour son poème « Le Christ révolté ». Mais il a quitté en raison de son jeune âge. Il n'a seulement que 19 ans. À la suite de ça, il travaille un temps à la librairie. Cependant, c'est l'inflation à cette époque. Et il se fait embaucher dans une banque, la banque Mosner. En premier pour la comptabilité, puis après pour être chargé de contrôler les valeurs que l'on avait le droit d'émettre le jour de paiement. Et la banque fait faillite. Donc il décide à la suite de cela de devenir écrivain et s'inscrit à l'université de lettres de Szeged pour le hongrois, le français et la philosophie.
Oui, on peut penser qu'il n'a jamais rêvé d'être banquier. Hein.
Non,
il était banquier parce qu'il fallait gagner sa croûte, quoi, en gros. Hein.
C'est ça. Et donc il s'avère être un étudiant très brillant. Et donc pour payer son logement pendant cette période, il le paye grâce à ses honoraires de poème. Il a à cette époque aussi une liaison avec une artiste peintre dont il vit chez elle et il tombe amoureux de sa fille, Lucas.
Voilà, mais comme il est comme c'est quelqu'un d'assez naïf, il va expliquer tout simplement que c'est pas grave, il est tombé amoureux de sa fille à la mer, quoi, qui ne le prend pas très bien d'ailleurs. Ce personnage de Luca, d'ailleurs, on en a entendu parler dans le tout premier poème qu'a dit Noémie au début. Hein. J'étais amoureux de Luca, mais Luca ne l'était pas de moi. Bon, et c'est le scandale, comme il va en accumuler beaucoup, parce qu'il y a une espèce de naïveté totale. Florian voulait nous dire quelque chose.
Donc après, en 25, il crée à nouveau le scandale avec un autre de ses poèmes, Cœur pur. Et là, son professeur Antal Orgej, avec qui il devait passer l'examen linguistique d'hongrois, lui déclare que, lui vivant, il ne serait jamais professeur de lycée. Cependant, ce poème est bien accueilli par Hugo Ignotus, qui est le créateur de la revue Nyunga. Il donne Attila comme le modèle de la nouvelle poésie.
C'est-à-dire qu'il est en train de se faire un petit trou quand même dans la société littéraire, et il étonne, parce qu'il n'est pas du tout venu de là. Hein.
Et du coup, à l'automne, il part pour Vienne et s'inscrit à l'université. Pour vivre, du coup, il fait des petits boulots, il vend des journaux, et il fait le ménage à l'Académie hongroise de Vienne. À ce moment-là, il rencontre Lajos Kaczak, pardon.
Oui, Lajos Kaczak, mais en fait, il va rencontrer toutes les migrations, parce qu'il faut penser que après la commune de Belakoun, il y a toute une émigration qui va se retrouver à Vienne. C'est Vienne qui est le pôle d'attraction de tous les intellectuels qui se sont réfugiés là, de gens même qui sont poursuivis, qui ont fait de la prison, etc. Donc là, il va rencontrer un milieu d'une grande émulation pour lui. Hein, et surtout, alors, je ne sais pas si c'est... oui, c'est Lajos Kaczak dont vous parlez.
Oui, qui dirige la revue d'avant-garde aujourd'hui. Oui. Et c'est justement auprès de tous ces personnalités de l'immigration hongroise qui va l'influencer, ses opinions politiques notamment. Et au même moment, il se lie d'amitié avec l'écrivain Andor Németh,
qui va rester un ami toute sa vie, hein, un ami très fidèle.
Et il rencontre aussi le baron Lajos
Advani.
Ouais. Merci. qui deviendra, nous verrons plus tard, son protecteur.
Et alors, qui c'est là, ce couple des Lajos Advani? Vous savez, c'est eux qui sont les légataires d'un très grand poète hongrois qui a eu beaucoup d'influence sur Attila Joseph, qui s'appelle Endre Hadi, et qui est un très grand, enfin, dont la renommée a passé de très loin les frontières de la Hongrie. Et donc, ce couple va s'intéresser, et en particulier, la femme va lui donner de l'argent pour...
Donc, Attila Joseph, justement, va rester en Autriche chez son protecteur jusqu'à l'été 1926, où il va recevoir de l'argent de la femme de la maison, qu'il va utiliser pour partir à Paris pour faire des études en France. Mais à Paris, il va faire face à deux problèmes. Le premier, c'est la barrière de la langue, en fait. Il ne parle vraiment pas français. Donc, une anecdote, il va apprendre la langue française mot par mot dans le dictionnaire, page par page. Donc, c'est assez audacieux. Et le deuxième problème, en fait, auquel il fait face, c'est que, dans le fond, il va vivre dans la misère totalement. Il n'y a pas vraiment d'argent quand il est en France. Juste pour donner un exemple, il ne mange que du pain et de la moutarde pendant ces mois-là.
Parce que c'est la seule chose qui est donnée gratuitement dans les cantines pour les étudiants hongrois.
Voilà.
Et d'ailleurs, ça fait dire à un de ses copains qu'il n'a jamais pu demander de pain parce qu'il n'était jamais arrivé jusqu'à la lettre P dans l'alphabet de le dictionnaire français.
Et d'un autre côté, à Paris, il va étudier, il va faire des découvertes. Donc, non seulement il y a eu des problèmes, mais il a fait des très belles découvertes qui vont l'influencer, dont François Villon, Tristan de Tzara avec le surréalisme et le marxisme, évidemment. Et c'est une année qui marque une quatrième tentative de suicide, mais on n'a pas plus de détails là-dessus dans les livres. Il ne nous l'explique pas vraiment.
Oui, parce qu'il faut dire que quand même, il est très, très seul. Hein. Il vit complètement misérablement. Il est très isolé. Il est malade. Il a attrapé une maladie d'estomac à force de manger rien ou du pain et de la moutarde. Hein. Et alors, effectivement, Tzara est hongrois comme lui. Tzara, c'est le fondateur de Dada en France. Mais le surréalisme, il le voit d'un peu loin. Par contre, Villon, c'est quelque chose de très, très important pour lui parce qu'il va trouver une espèce de gémellité avec ce poète qui est un poète du Moyen-Âge. Mais il va découvrir quelqu'un qui a une immense révolte comme lui et il va se plonger complètement là-dedans. Alors, finalement, il s'inscrit. Alors, il va essayer de passer l'examen ou pas? Il est en Sorbonne, je crois. Il est inscrit à la Sorbonne.
Oui, en fait, dans l'année 1927, Attila, il a 23 ans, il reçoit une bourse pour passer ses examens à la fac, mais en fait, étant donné qu'il n'est pas assez bon en français, il va décider de prendre cet argent-là pour partir en voyage sur la Côte d'Azur. C'est le moment dont il considère le plus heureux de sa vie. Justement, il envoie un télégramme à sa famille qui contenait ce message-ci. Paris, Marseille, Nice, baiser, embrassade, bonheur indicible, génie, panthéon, Attila. Donc voilà, donc à la réception de ce télégramme-là, sa sœur va donc le rejoindre sur la Côte d'Azur et vont finalement retourner à Budapest ensemble.
Voilà, merci beaucoup. On va écouter maintenant un autre texte d'Attila Joseph, l'évocation du lion.
J'ai déjà tenu un cigare entre mes dents. Le couteau dans mon poignet s'est arrêté, je me suis décrassée. Dans l'orage écumant, dans ma bouche dormante, une mouche est entrée. Sous mon crâne, elle a sommeillé, la pauvre dame. Elle y a bien rêvé. On m'a respectée quand je toussais du sang. Je ne crachais pas dans la neige, pourtant, j'ai été un malin qui crie fort. Entendons-nous donc rire un mort, mais peut-être le mort vit encore. Là-dessus, je sirotais un bon petit vin. Je mâchais de l'épaule de porc de la main gauche. Je serrais les mains en faisant claquer mes canines sonores. J'ai mis tous mes dieux à l'encan. Les habits que je porte, ce ne sont pas les miens. Les lâches peuvent bien me chercher, mais moi, dans mon cœur efflanqué, derrière mon miroir en amouré, c'est un lion que j'attends. Article 1. Que sa crinière éplorée avive l'éclat de mon soulier. Article 2. Qu'il vienne me caresser, et si sa griffe m'arrache le gosier, qu'il me lèche jusqu'au bout les yeux fermés. Article 3. Dans mon cerveau tout rugissant, sans sa moitié, qu'il vienne garder mon caveau.
Si je m'éprends de toi, tu pourras entrer sans frapper. Mais pense-y bien. Je te coucherai sur ma paillasse, et bruissante elle rendra des soupirs de poussière. C'est dans une cruche que je t'apporterai l'eau fraîche. J'essuierai tes chaussures avant que tu ne partes. Il n'y aura personne ici pour nous déranger. Tu pourras te courber tranquille pour repriser nos habits. Le silence sera grand silence, je te parlerai aussi. Quand tu seras fatigué, je te ferai asseoir sur mon unique chaise. S'il fait chaud, tu pourras retirer ton foulard et ton col. Si tu as faim, de simple papier sera ton assiette, même si autre chose se présente. Sinon, laisse-moi. Moi aussi, j'ai toujours une faim dévorante. Si je m'éprends de toi, tu pourras entrer sans frapper. Mais pense-y bien, cela me blesserait si tu restais longtemps éloigné.
S'en vont mes cheveux, s'en va ma jeunesse. Plus de pain, je n'ai pas de quoi. Ma plume tangue entre mes doigts. Frère le pêcheur en même détresse est mort, mais d'autres la vie les caressent. Joli filet, mes mains, mes deux poignets aux tendres mailles, j'entre dans l'eau jusqu'à la taille. L'eau noire si pesante ce matin. Ma pêche de pauvre, un rêve incertain. Déchiré, il est déchiré, je pense, mon filet, qui si bien pêchait, perdu ses flotteurs arrachés, Je l'accroche soigneux entre deux branches. Je le ravaude et tandis qu'il balance mollement dans l'ombre ponctuée d'abeilles, je le vois. Et d'où soleil je vois que mon filet tendu tout froid, c'est là grand ciel lui-même et que ses mailles sont mille étoiles qui, vaille que vaille, doucement scintillent.
Kik szemét az ég, lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét, aludj el szépen kis Balázs.
Le ciel ferme ses yeux bleus, la maison ferme tous ses yeux. Le pré dort sous son édredon, endors-toi mon petit garçon. Sur ses pattes, la mouche a mis sa tête et dort. La guêpe aussi, avec elle, dort leur bourdon. Endors-toi, mon petit garçon. Le tramway rêve doucement, endormi sur son roulement. Dans son rêve, il sonne à tâtons. Endors-toi, mon petit garçon. Sur la chaise, la veste dort, et son accro dort, corps à corps. Il n'en deviendra pas plus long. Endors-toi, mon petit garçon. La balle est vaincue, le sifflet somnole comme la forêt. Et même, il dort le gros bonbon. Endors-toi, mon petit garçon. Tu auras l'espace et la terre, comme tu as ta bille en verre. Tu seras géant pour de bon. Endors-toi, mon petit garçon. Tu seras pilote et soldat. Berger des fauves, tu seras. Ta maman dort et sa chanson. Endors-toi, mon petit garçon.
Tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka.
Mathilde va nous dire maintenant le texte Cœur pur qui a fait scandale et dont on a parlé dans le micro précédent.
Je n'ai ni père, ni mère, rien que je rêve ou j'espère. Je n'ai ni Dieu, ni patrie, berceau, cercueil, tendre ami. De trois jours, pas un repas, oui, ce qui s'appelle pas. Ma puissance, c'est 20 ans. Ma puissance, je la vends. Et pour peu que nul n'en veuille, que le diable lui l'accueille, je volerai l'âme pure et tuerai, je vous assure. Mais qu'on m'arrête et me pende, et qu'à la terre on me rende, maléfique et sûre, une herbe sourdra de mon cœur superbe.
36
degrés de fièvre à peine.
36 fokos lázban égek mindig.
Et vois, je brûle.
S te nem ápolsz, anyám.
Santé douce, soin, maman.
Mint lenge könnyű lány, ha odaint.
Ainsi qu'on fait des filles sans scrupules.
Kinyújtóztál.
La mort t'a étendu contre son flanc.
Lágy őszi tájból.
D'un doux automne.
És sok kedves nőből.
Et de femmes chéries, je tâche. Maman, de te recréer.
De nem futja már, látom az időt.
Mais on n'échappe pas au temps qui fuit.
A tömény tűz.
Je brûle. Un vrai brasier.
Utoljára szabad szállásra mentem.
J'ai fui, gamin, en province. On était à bout.
S'ez összekúszálódott Budapesten.
C'était l'après-guerre, Budapest était sans dessus-dessous. Et même du pain, on en trouvait guère.
A vonattetőn hasaltam keresztbe.
Sur un wagon, à plat ventre, couché. Je t'apportais des vivres, fils têtu, du millet blanc, même un poulet entier, et toi, tu n'étais plus. Tu as abandonné au ver tes doux tétons. Tu m'as échappé, mère, tes réprimandes, tes consolations, si chères, se révéler des mensonges. Mange, c'est pour moi que tu grandiras. Tu soufflais sur mon potage brûlant. Hélas, tu ne mords plus que le gazon ras. Tu m'as trahi, maman. J'aurais dû te manger, toi. Pas ton dîner. Qu'est-ce que j'ai demandé, moi? Pourquoi avoir tant lavé le dos courbé? Pour au fond du trou reposer bien droit.
Ah,
si tu pouvais encore me rosser. Je regimberais, pris d'un bonheur fou.
Méchante,
tu feins de ne pas exister. Ombre, tu gâches tout. Tu es plus gredine que toutes ces femmes qui nous mènent par le nez. Tu as de tes amours en fraude omis ta foi vivante dans des cris enfantés. Tzigane, cajoleuse, maman, tous tes dons, tu les reprends à l'heure de la mort. Ma bouche, pour toi, crache des jurons. M'entends-tu? Fais-moi taire. Je m'égare. De nouveau, mon esprit fou s'éclaire. La légende est partie. L'enfant à jamais épris de sa mère reconnaît avoir été insensé. Toujours nous serons des fils insatisfaits. Même en leurrant les autres, on se leurre. Qu'on lutte ou bien qu'on choisisse la paix. Il faut bien mourir.
Au milieu de ses poupons, la fourmi s'est endormie. Vent, ne va pas maintenant disperser ses poupons. En fait, ce serait bien aussi. Elle hoche sur le mica sa petite tête bien lasse. Et une ombre de gouttes s'endort à son côté. Avec un brin de paille, tout doux, l'a réveillée. Mais non, rentrant à la maison, le ciel se couvre méchamment. Au milieu de ses poupons, une fourmi s'est endormie. Et hop, sur ma main, une goutte de pluie.
Ainsi s'achève cette première heure consacrée à Attila Joseph et enregistrée sur le campus de la fac Paul Valéry à Montpellier avec les élèves de deuxième année de théâtre de la section spectacle vivant de la fac. Je voudrais remercier d'abord tous les remerciés. On va les applaudir très fort parce qu'ils ont fait un énorme travail. Donc je voudrais simplement remercier rapidement donc Apolline Andréis, Jeanne Bousquet, Joy Brenuga, Nadja Colepaya, Andréane Dubois, Elisa Erkert, Margot Larcher, Émile Oriot, Maïté Lotin, Esgui Moutlou, Anna Pérudin, Mathilde Auger, Camille Proux-Tremblay, Noémie Salmeron, Sabrina Tabellion, Marelle Volburg, David Guerchon, Pascal Barbe pour les messieurs, Antoine Dubois-Mercier, Julien Tiss, Mohamed Bouadla, Florian Lebon, et remercier à la technique aussi Bruce Torrente et Tom Martinez. On remercie aussi Jofia Falouchi, l'étudiante hongroise qui a bien voulu venir nous dire le texte d'Attila Joseph en hongrois. Cette émission, elle a eu lieu grâce à l'initiative de Philippe Goudard qui dirige, qui est un des professeurs de l'unité de art du spectacle. Voilà, j'espère qu'on va passer ensuite à la seconde heure. On va aussi citer très rapidement les musiciens à qui on a emprunté des musiques, hein, qui sont, pour aller très vite, parce qu'on a tapé beaucoup dans le patrimoine hongrois, Bartok, Ligeti, le groupe Sondorgo. Je lis ma feuille mais je n'arrive pas à retrouver mes notes, Goran Bregovic, et puis toutes les musiques qui ont été montées en pré-enregistrement, et on remercie en particulier Esgui Moutlou qui a fait un gros travail de montage et d'enregistrement. Voilà, Vous pouvez retrouver cette émission sur Radio Clapaz 93.5 sur la FM, l'écouter en podcast. Toutes les émissions qui ont été faites par la BIF sont à écouter aussi en archive sur le site www.michelarbatz.com. Voilà, et puis vous pouvez inviter la BIF dans tous vos lieux de paresse, de travail, de distraction pour lui faire dire des textes de poètes, car il n'est de bonne poésie que dite.